Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes malade en voiture?
Non, c'est parce que quand je suis content, je vomis. Et là, je suis hyper content.
Bonjour et bienvenue dans Nos Ciné Spécial Cannes épisode 6, je suis David Honoré et c'est un très grand plaisir de vous retrouver une dernière fois en direct du Festival de Cannes 2019. Aujourd'hui on va faire le bilan de cette 72e édition et donc j'ai rassemblé tous les survivants, dont certains sont sortis vivants des 3h28 éreintantes d'Abdelatif Kechiche cette nuit, notamment Anaïs Bordage. Salut Anaïs.
Salut David.
Ça va, t'as compté les culs dans le film?
Tout à fait, il y a 178 plans de culs dans ce film, voilà. Bon. Service public.
Mais il y a aussi des personnes qui portent ces culs.
Bref. Effectivement. Désolée, je ne veux pas les réduire à leur cul, mais en même temps, on voit plus leur cul que leur tête dans le film. Donc.
Avec moi aussi, Hugo Alexandre.
Salut David.
Arnaud Bordas.
Salut David.
Et comme d'habitude, toujours là, toujours en forme, toujours au taquet, Perrine Kenson, que je retrouverai aussi une dernière fois dimanche matin pour qu'on donne nos impressions sur le palmarès qui sera rendu par le jury d'Alejandro González Iñárritu. Et tu vas commencer par une petite chronique en forme de bilan avant qu'on parle de tout ce qu'on a vu, aimé, pas aimé.
À faire le bilan calmement.
Jackie comme... Benji, si tu nous écoutes.
Comme dirait Adèle, This is the end. Enfin, pas tout à fait, mais presque. Alors, qu'est-ce qu'on garde de cette édition 2019, de cette 72e du Festival de Cannes? Un peu plus vieux et pas trop ensoleillé, mais bon, on n'est pas quand même au drame de 2013, avec ces bourrasques qui envolaient des parasols menaçant d'empaler les festivaliers. D'ailleurs, en parlant d'empalement, quand on pense Cannes 2019, on pense à cette actrice allemande qui, en rentrant chez elle après une soirée, s'est retrouvée empalée sur la grille du portail de sa résidence, car elle avait oublié ses clés. Mauvais karma, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien pour elle, sauf peut-être sa cuisse qui, visiblement, a pris un petit peu cher. Sinon, Cannes, c'est un peu le western. En tout cas, il y a des histoires de récompenses. Et c'est Magnum qui paye. En effet, la marque qui investit chaque année une plage pour y accueillir des soirées et des affamés de glace a promis une récompense à celui qui retrouverait son Magnum géant. En effet, dans la nuit du dimanche 19 mai, l'objet de décoration mesurant 2 mètres et pesant quelques 20 kilos a été subtilisé. Les festivaliers s'en sont aperçus vers 4 heures du matin. Et combien de degrés d'alcool, on ne sait pas. En faisant une ronde. Il y a des rondes, là, visiblement. en faisant la ronde. Bon, je sais pas. D'un drame sur la croisette, les meilleurs limiers ont été lancés sur l'affaire. Bonne nouvelle, cependant, l'objet, un tant soit peu encombrant, a été restitué le 22 mai dernier grâce à une brocanteuse. Ouf, et merci madame. Autre vol, ceux des bijoux de Rita Ora. Enfin, différemment, puisque en fait, les 3,5 millions de bijoux ont été oubliés par une personne visiblement très tête en l'air dans un avion. Enfin, là aussi, tout va bien. Ils sont rentrés tranquillement à Londres. Tout va bien. Cannes 2019, c'est donc un peu la folie joyeuse, ou moins d'ailleurs si l'on pense à ce monsieur qui hurlait sur les autres en projection de presse. C'est suffocant, comme les files d'attente pour entrer en soirée, ou comme la robe de Elle Fanning qui, parce qu'elle était bien trop serrée, l'a fait s'évanouir. Cannes, le festival, toute cette pression, quoi. Mais surtout, c'était vraiment sympa et poli, puisque visiblement, Abdelatif Kechiche s'est excusé pour la longueur de son film, et vu les retours, c'était la moindre des choses. Allez. Mais ça l'année prochaine.
Merci Perrine. Et du coup, on va pouvoir faire le bilan. Alors, je vous ai préparé, comme pour la première émission, une petite série de catégories avec laquelle on va pouvoir explorer tous les films qu'on a vus dans la sélection officielle et dans les sélections parallèles. Et on commence avec le plus beau plan du festival. D'après toi, Anaïs, c'était quoi ?
Alors c'est difficile d'en choisir un, mais il y a le film de Robert Eggers, The Lighthouse, qui m'a vraiment frappée, et il y a un plan dedans notamment, donc c'est un film qui est en noir et blanc et en format carré. donc sur deux mecs qui gardent un phare. Et il y a un plan de Willem Dafoe en contre-plongée qui est éclairé de manière hyper expressionniste, en fait. On dirait vraiment un tableau qui m'a vraiment frappée. Et je pense que c'est l'image qui m'est le plus restée dans tout ce festival. C'est absolument terrifiant. On dirait vraiment un tableau horrifique.
Arnaud, le plus beau plan du festival ?
Bah, je veux pas trop m'apesantir dessus parce que sinon ça va spoiler, mais pour moi c'est le plan final de Parasite, quoi.
De Bong Joon-ho.
Ouais, de Bong Joon-ho. C'est peut-être, on peut préciser peut-être pour l'anecdote, c'était assez rigolo parce qu'en fait il y a un final qui précède, un plan final, enfin que les gens ont pris pour le plan final, qui se sont mis à applaudir, qui je trouvais était totalement illogique que ça soit le plan final, et c'est justifié après qu'il ait été mis là, ce plan. Mmh. Mais quand le plan final arrive, c'est un véritable crève-cœur, quoi. Il est terrible, ce plan, quoi. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'est vraiment le plan qui m'a le plus frappé dans tout le festival, quoi.
Ouais, Perrine.
Bah, moi aussi, je suis sur le Bong Joon-ho, en fait. C'est un plan dans le film de Bong Joon-ho, Parasite. C'est pareil, je ne vais pas non plus trop m'apesantir, mais c'est juste, à un moment donné, on évoque l'idée des fantômes dans le film, très rapidement. Et il y a juste un plan où on voit un visage sortir d'un escalier, une grande porte noire. C'est hyper cadré, c'est hyper centré. Et on a juste deux yeux comme ça qui surgissent de nulle part dans une porte noire. Et ça, moi, ça m'a particulièrement terrifiée. Et j'ai trouvé ça sublime, en fait. Très, très beau et très terrifiant. Et qui va très bien pour moi avec toute l'histoire du film.
Hugo ?
Ben oui, c'est aussi dans Parasite, en fait. C'est ouais. Enfin, tout est beau dans Parasite, donc ouais. Donc voilà. Mais ce serait plutôt une séquence, en fait. C'est au début du film qui est plutôt humoristique, disons. Et après, ça bascule dans autre chose. C'est une sorte de. En fait, je pense qu'on peut raconter ça. C'est que au début du film, c'est une famille qui essaie d'expulser tous les employés d'une maison. Donc il y a un majordome, une gouvernante, etc. Et à un moment, ils essaient d'expulser la gouvernante, enfin de trouver un stratagème pour qu'elle se fasse virer
pour la remplacer.
Et en fait, c'est filmé un peu comme une scène de casse à la Soderbergh. C'est tellement génial que toute la salle applaudit à ce moment-là. Donc je vais pas raconter comment ils le font, mais en fait il y a tout qui s'imbrique. C'est une séquence qui va très très vite avec plein de plans superbes et c'est assez jouissif, en fait, et tout le film est comme ça.
Ouais, moi pour dire à quel point le film de Bong Joon-ho est riche et on est beaucoup à le considérer comme un des favoris là pour la Palme. J'ai aussi un plan moi qui m'a marqué où j'étais complètement essoufflé. C'est à un moment une séquence où un personnage en fait sort avec une bouteille d'eau pour arroser un type qui pisse devant leur fenêtre. Et un des personnages du film attrape son téléphone portable et commence à filmer la séquence au ralenti. Et cette idée, voilà, de transitionner, d'amener le ralenti dans le film par l'utilisation du téléphone, j'ai trouvé ça magnifique. Donc, d'un point de vue purement formel. Et un autre grand film formel que j'ai vu cette année à Cannes, c'est La Causeway Sauvage de Diao Yinan. Et dedans, il y a beaucoup de plans extrêmement réussis visuellement, dont un qui utilise des chaussures qui font de la lumière pour faire son éclairage et qui réussit avec ça un plan absolument magnifique qui me permet de passer à la catégorie suivante, l'acteur ou l'actrice que vous avez découvert pendant cette quinzaine. Arnaud,
on peut faire l'acteur et l'actrice.
Allez, fais-toi plaisir.
Donc l'acteur, alors c'est pas une découverte pour moi, quoi, et puis pour certaines personnes qui suivent depuis un peu quelques années, mais ça peut l'être pour certains auditeurs. C'est Don Lee, l'acteur principal, l'un des deux acteurs principaux qui joue le chef de gang dans le film coréen qui a été projeté hors compétition hier, The Gangster, The Cop, The Devil. Et donc Don Lee, c'est un acteur coréen qui a été révélé à l'époque ici à Cannes d'ailleurs par Dernier Train pour Busan où il jouait l'un des passagers. Et donc c'est un grizzly, le type, quoi. C'est physiquement, il est assez impressionnant.
Il y a un petit côté Obélix.
Ouais. Il y en a qui dit parler un peu de Bud Spencer coréen, mais parce qu'il distribue beaucoup de torgnoles. mais il a quand même un charisme et une manière de jouer quand même un peu plus développée que ceux de Bud Spencer. Donc voilà, je le trouve vraiment formidable, étonnant. C'est la nouvelle action star coréenne depuis 2-3 ans. Voilà, maintenant, il a des projets qui se construisent uniquement sur son nom. Et là, le rôle de The Gangsters, The Cops, The Devil, lui permet de donner toute la mesure de son talent, parce qu'il a des vraies scènes de jeu, il a des scènes d'action. C'est un personnage, enfin, c'est un acteur très physique, quoi. Voilà, donc ça, c'est pour l'acteur. Et pour l'actrice, alors là, c'est une vraie découverte pour ma part, quoi. C'est Valérie Pachner, l'actrice autrichienne du film de Terrence Malick, Une vie cachée. Voilà, donc c'est l'actrice principale du film qui joue cette paysanne autrichienne qui va devoir subir le martyre de son mari, mais enfin qu'il le subit par amour, quoi. Et je l'ai trouvée hallucinante, cette fille. Enfin, l'acteur aussi est lui aussi hallucinant dans le film, hein, ils sont tous les deux très bien. Mais elle m'a particulièrement les longs plans, évidemment contemplatifs, où Malick la filme dans la nature. Elle a un visage et un regard vraiment étonnant, cette fille, quoi. Voilà.
Perrine.
Bon, moi aussi, je m'amuse une actrice, un acteur. Mais alors, très vite sur l'acteur, en fait, c'est pas une découverte tant que ça, c'est plus une confirmation. C'est Taron Egerton dans Rocketman.
Ouais. Qui joue Elton John, du coup.
Qui joue Elton John, que j'avais déjà beaucoup aimé dans Kingsman, que j'avais déjà vu dans d'autres films que j'aime beaucoup. Mais là, il prouve avec Rocketman qu'il a toute l'ampleur et la capacité de pouvoir porter un film tout seul et sur ses épaules et sur son nom. Et enfin, moi, je trouve ça vraiment très très bien. J'aime beaucoup ce jeune acteur, Taron Egerton. Et l'actrice, pour le coup, moi, ce sera Noémie Merlan, que pour le coup, moi, j'avais jamais vue, je pense. Et dans le film de Céline Sciamma, qui est absolument. C'est une très jolie fille, mais surtout, elle a une espèce d'intelligence dans le regard, de feu intérieur. Il y a une intensité quand elle regarde et quand elle joue. Elle écrase tout sur son passage. Elle a un charisme démentiel. Moi, elle m'a vraiment beaucoup, beaucoup impressionnée, Noémie Merlan.
Anaïs ?
Oui, bah moi aussi, j'allais dire Noémie Merlan. En fait, elle est face à Adèle Haenel dans le film. Et Adèle Haenel, on sait que c'est quelqu'un de très, très intense et d'assez impressionnant à la caméra, quoi. Et en fait, elle arrive non seulement à soutenir complètement l'intensité d'Adèle Haenel, mais même de la surpasser, quoi. Ouais. Et elle a un regard noir, en fait. Elle a des yeux noirs des cheveux noirs, vraiment d'une...
Noir et bleu, ils sont fascinants, ces yeux.
Ouais. Et en fait, et au début, elle apparaît un peu comme timide. Et en fait, très rapidement, elle domine complètement le film et vraiment... Elle est inévitable, quoi. Vraiment, je trouve que cette actrice est superbe et j'ai hâte de la voir dans d'autres films.
Hugo,
moi, je vais retenir un acteur des Misérables, un des trois policiers du film, qui incarné par. Alors, il y a Damien Bonnard qui est très bon, mais on le savait un peu déjà.
On l'avait découvert avant.
Il y a un mec qui s'appelle Alexis Mananti, qui joue un peu le méchant, entre guillemets, c'est-à-dire le flic un peu nerveux, un peu violent, un peu crapuleux sur les bords, et il est excellent dans ce rôle-là. Apparemment, il avait déjà joué ce rôle-là dans le court-métrage Les Misérables. Il avait joué dans Épouse-moi mon pote. Il a joué un policier ivre dans La Brue, voilà. Et donc j'ai découvert ce type et il est excellent.
Perrine, tu voulais ajouter
juste ajouter, parce que Damien Bonnard, l'acteur que tu viens de nommer, et juste Djibril Zonga, qui fait Guada dans le film, voilà, il joue très bien, et puis pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec le cinéma.
Alors moi, j'ai aussi retenu finalement une confirmation, parce qu'on l'avait déjà découverte dans le premier film Mektoub My Love de Keshis, chez Ophélie Beau, qui pour moi est... une confirmation incroyable avec le deuxième volet. Il va y avoir beaucoup de polémiques et de discussions sur le film, sur la manière de qu'a Keshish de filmer les femmes, de les sexualiser. Mais ce serait dommage, en fait, de balayer la qualité de la performance des actrices, et en particulier la sienne, qui est, mais je trouve, vraiment extraordinaire. C'est... elle a des jeux de regard, énormément de choses qui passent sans un dialogue.
Des jeux de fesses aussi, non ?
Ouais, mais justement, c'est exactement ça qui est, je trouve, ridicule et qu'il faudrait éviter.
Une blague, ça.
Ouais, mais le problème, c'est qu'elle va beaucoup subir ça.
J'ai un peu peur qu'elle soit malheureusement...
Et c'est dommage, parce que c'est vraiment... Encore une fois, les films de Keshish ont lancé pas mal d'actrices qui, derrière, ont réussi à s'en émanciper. Et voilà, je pense qu'elle est quand même promise à une belle carrière. Alors, on passe à une autre catégorie, c'est l'émotion. Et il a pu y en avoir, surtout quand la fatigue arrive, on n'est plus plus facilement sujet à l'émotion. Votre plus grosse émotion, monsieur Hugo Alexandre?
Moi, ça va être le film de Ken Loach, en fait, c'est une émotion tout le long, en fait. T'as les yeux qui piquent pendant tout le long parce que ça raconte l'histoire d'une famille qui galère et par des dialogues assez simples, sans trop souligner ce qu'avait un petit peu perdu Ken Loach ces derniers temps. Et j'ai retrouvé mon Ken Loach et mon émotion.
Perrine, tu nous avais d'ailleurs annoncé de l'émotion sur Ken Loach. Est-ce que c'est ça qui t'a le plus marqué?
Ben non, même si j'avais les yeux qui piquaient, hein, comme Hugo, tout à fait. Mais moi déjà, il y a les plans d'avion de la Cordillère des Andes dès le début de la Cordillère des Songes, où voilà, j'étais déjà en pleurs, mais ça c'est parce que visiblement, je dois avoir un problème avec la Cordillère des Andes. Mais non, la plus grosse émotion, je pense que c'est le Almodovar pour moi. Le Almodovar, à partir d'une séquence de monologue, je n'ai plus arrêté de... Les vannes étaient ouvertes et impossible à refermer.
J'étais à côté de toi, cette projection, je confirme.
Et t'entendais. Mais donc c'était... Non, je trouve qu'il y a... Il y a dans le jeu d'Antonio Banderas, dans ce qui est en train de se dérouler à l'écran, moi, ça m'a... j'ai trouvé ça particulièrement bouleversant, très intime et très bouleversant.
Arnaud, l'émotion?
Moi, je n'ai pas réfléchi longtemps là, parce qu'en gros, c'est le seul film où ça m'a fait ça. C'est alors là aussi, je ne vais pas trop spoiler non plus, mais c'est La fin d'une vie cachée de Terrence Malick. Parce que c'est là où les larmes sont venues aux yeux. Ouais. Quoi, voilà, je ne veux pas trop en dire. C'est en gros, c'est la fin. C'est non seulement on assiste à l'aboutissement de la trajectoire du personnage principal, qui est terrible. Hein, et puis en même temps, à l'explication du titre, quoi, tout ça se recoupe et c'est très très beau, quoi, vraiment. Quoi.
Ouais, jusqu'à la citation qui est utilisée sur le plan final. Moi, je suis pas très original parce que mes deux moments d'émotion, c'est les mêmes que Hugo et Arnaud. J'ai pleuré sur une scène d'engueulade, la mère de famille qui engueule le patron au téléphone sur Ken Loach, et sur la fin d'une vie cachée de Terrence Malick. Anaïs?
Moi j'ai deux grosses émotions. Les Misérables, qui étaient en fait d'une telle intensité, avec un crescendo vraiment de plus en plus violent dans le film, que j'étais juste, j'ai pleuré, mais de tension, en fait. C'était vraiment une émotion très très forte et un peu implacable, quoi. Et par contre, dans l'émotion plus classique, en fait, c'est Le Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, où comme toi, Perrine, avec le Almodovar, en fait, il y a un moment qui est à peu près au milieu du film, où on découvre donc cette jeune fille en feu, cette image-là, qui a en fait ouvert les vannes également. Et à partir de là, j'ai juste pleuré non-stop pendant tout le film, parce que l'intensité allait vraiment de plus en plus fort et que je trouvais ça juste tellement beau de présenter tous ces plans et de présenter cette sororité et cette histoire d'amour avec tellement de finesse et tellement d'intensité et une représentation et un regard qu'on voit très rarement au cinéma et encore plus rarement à Cannes, que ça m'a complètement dévastée. Et le dernier plan, je m'excuse à mes voisins de siège, parce que les reniflements étaient vraiment intenses, quoi.
Alors, à l'opposé de l'émotion, il y a le rire, qui en général n'est pas forcément le concept le plus fréquent à Cannes, mais il y a quand même eu l'occasion de se marrer un petit peu cette année. J'ai dit le plus gros fou rire, il n'y a pas forcément eu de fou rire, mais en tout cas, le moment où vous avez ri à Cannes, Arnaud, toi, c'était quand?
Alors moi, c'est pas un film, c'était la masterclass de John Carpenter.
Ouais.
En fait, c'était à un moment précis où il y avait deux réalisateurs qui l'interviewaient, Yann Gonzalez et Catel Chiévere. Ouais. Et Catel Chiévere s'est empêtré dans une question à base de surgissement dans le cadre et de symbolique visuelle et tout, et où c'est plus elle avançait dans la question et plus c'était gênant, et surtout quand on connaît le bonhomme qu'elle avait en face qui rechigne clairement à parler de d'interprétation symbolique dans ses films. C'est quelqu'un de très pragmatique. Et la réponse de Carpenter a été géniale, parce qu'en gros, il lui a dit si j'ai envie de paraître intelligent, je vais répondre que oui, que j'ai voulu faire ça, quoi. Et là, d'ailleurs, tout le monde a rigolé, quoi, mais ça m'a fait marrer parce qu'en fait, ça démontrait un petit peu que c'est une très mauvaise idée de confier des animations de masterclass, c'est un métier à la base, de le confier à des cinéastes parce que la plupart du temps, là, on avait Yann Gonzalez qui était,
au bord
de la crise d'apoplexie, ouais. Là, qui tremblait dans la voix et
tout. Il était assez timide et ça a été dur pour lui. Ouais.
Et qui posait globalement tous les deux des questions souvent complètement à côté de la plaque. Et voilà, à moins d'avoir un cinéaste vraiment, comme ça peut arriver à des gens comme Tarantino ou Guillermo del Toro, qui sont des gros, enfin qui ont une relation vraiment au cinéma très.
C'est des cinéphiles.
Ouais, c'est des cinéphiles, voilà. Et qui arrivent à mettre de côté leur passif de cinéaste et à ne se comporter qu'en intervieweur. Moi, j'avais vu une masterclass de Michael Mann à l'Institut Lumière à Lyon, là, il y a 2 ans, qui était superbe, animée par Guillermo del Toro. C'était bon. Mais en général, je trouve cette idée de confier à des réalisateurs des animations de masterclass, c'est assez. Enfin, je trouve que c'est une mauvaise idée.
Ouais. Ok, Perrine, ton plus gros fou rire.
Moi, c'était au niveau de. Alors, au-delà de quelqu'un hier soir qui m'a fait le résumé du Kechiche avec beaucoup d'humour, où j'étais pliée en deux tellement. Je veux voir le film, mais dans la façon dont il l'a raconté, parce que ça avait l'air extraordinaire de cette façon-là. Mais sinon, c'est plutôt le film d'Honoré, Chambre 212. Il y a quelques répliques qui, pour moi, ont fait vraiment très, très mouche, mais je riais à. Très très fort, et notamment cette réplique de le bonheur c'est de finir lesbienne en baie de Somme, et ça moi j'ai trouvé ça absolument fabuleux, et je me suis dit qu'il avait tout compris, Honoré. Moi j'ai vraiment beaucoup ri sur le Honoré.
Je sais pas quoi répondre à ça. Anaïs,
moi c'était le film Bacurau. Parce que en fait, on en a déjà parlé dans une émission précédente. C'est un film qui opère une rupture de ton assez incroyable à la moitié du film, et je m'y attendais pas du tout. Et en fait, on part d'un film social, un peu méditatif, sur un portrait d'un village perdu dans le temps et dans l'espace, qui en fait se transforme en espèce de western horrifique avec des scènes de violence complètement hallucinantes. Et c'était vraiment, je pense, un des films qui m'a fait le plus rire, parce que j'étais juste en joie totale devant cette surprise, ce film qui part complètement dans tous les sens et qui fait quelque chose auquel on s'y attendait pas du tout, quoi.
Hugo,
moi j'ai vu un film qui s'appelle Yves, qui est pas forcément très très drôle. Une histoire de frigo, ouais. Donc qui est un film de Benoît Forgeard qui avait fait Gaz de France, et qui, je trouve, qui est un peu en dessous de Gaz de France. Mais il y a toujours quelques bonnes idées. Et en fait, donc c'est l'histoire d'un frigo connecté, d'un rappeur qui a pas tellement de succès, qui a un frigo connecté, qui l'aide à écrire ses chansons. Et à un moment, il y a une rupture. Enfin, ils s'entendent plus, et donc le frigo connecté sort un peu de l'ombre, et il devient une star de la chanson et il participe à l'Eurovision, en fait. Et déjà, c'est marrant. Mais en plus. Comme il y a de plus en plus d'objets connectés dans le monde, en fait, chaque pays présente un objet connecté. Et donc, il y a par exemple une machine à café qui représente l'Italie. Donc voilà, c'est complètement con, et c'est hyper marrant. Donc ça m'a fait rire.
Alors moi, mon fou rire, j'avais déjà parlé de la séquence dans une première émission, c'est la première scène de The Climb de Michelangelo Covino, qui commence, ses deux potes à vélo en train de monter un col. L'un des deux va se marier dans quelques jours, et son pote qui maîtrise mieux le vélo part un petit peu devant, commence à accélérer dans le col, et au moment où ça commence à vraiment grimper, lui dit « au fait, j'ai couché avec ta femme ». Et là, la suite de la séquence, qui est entièrement en plan séquence, est hyper réussie. Ça va jusqu'à la descente où il se passe d'autres choses. En gros, il se met à pourchasser un mec qui les a doublés en deux chevaux. Et c'est hyper bien construit, très bien filmé. Et ils arrivent à tenir. Je me demande comment ils ont réussi à tourner ça pour régler tous les problèmes de à la fois le rythme, la capacité physique à tenir sur le vélo, et toute la gestion. Du plan séquence, et c'est en tout cas très marrant, et ça vous lance complètement dans le film, qui est ensuite une série de sketchs de cet acabit. Et on a vu beaucoup de films, on avait des attentes, et on avait aussi des films qu'on n'attendait pas forcément, et du coup il y a eu des surprises et des bonnes. C'est quoi pour toi, Hugo, la meilleure surprise de cette édition?
Je dirais que c'est Ken Loach, en fait, vu qu'il m'avait extrêmement déçu avec moi, Daniel Blake. Comme je le disais tout à l'heure, j'ai retrouvé mon Ken Loach, donc en soi, c'est une surprise.
Ok. Perrine ?
C'est un film que j'attendais, mais je ne m'attendais pas à le trouver vraiment aussi, aussi bien. Enfin, je ne sais pas vraiment ce que j'attendais, mais le sujet m'intéressait, mais je ne savais pas ce que ce serait aussi grand. C'est Les Misérables de Ladjili, qui, moi, a été... j'ai un peu ouvert le festival sur ce film-là, et ça a été une claque pour démarrer. Et je me suis dit, c'est bien, c'est très bon signe, et ça me fait plaisir de voir que... Il y a une génération de cinéma qui arrive, qui est très rassurante, parce que ce n'est pas que des films à sujet, c'est des films à sujet, mis en scène. Et moi, ça m'a fait ultra plaisir, au-delà du sujet que je trouve vraiment passionnant et très bien traité par Ladjili.
Anaïs ?
Moi, ma plus grosse surprise, c'était Papicha de Mounia Medour. C'est un film que j'attendais pas du tout et que j'ai rattrapé en fait le lendemain parce que beaucoup de gens commençaient à en parler.
Dont moi.
Dont toi, voilà. Mais même en y allant, en fait, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, on va voir. Et c'est un énorme choc, quoi. Ça se passe pendant la guerre civile en Algérie dans les années 90 et ça parle d'un groupe de jeunes femmes qui essayent de rester libres et de mettre en place un défilé de mode alors que leur société est en train un peu de sombrer dans le chaos. Et en fait, c'est un premier film et j'étais vraiment hyper surprise par la force de ce film qui nous prend vraiment par les tripes et qui nous lâche pas du tout. Il y avait vraiment une émotion très 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 forte dans la salle. Il y a des plans inoubliables, il y a des performances d'actrices hyper intenses. Et donc voilà, j'avais aucune attente et je suis ressortie vraiment en larmes et très choquée. Et c'est un des souvenirs les plus forts du festival pour moi.
Ok, Arnaud ?
Alors, ouais, la meilleure surprise, moi, ça a été le Takeshi Miike, First Love, qui était en hors compète, je crois.
Qui était à la quinzaine.
Ah, qui était à la quinzaine, ouais, pardon. Moi, une vraie surprise. Après, bon, c'est pas... comment dire, c'est pas... Il y a d'autres films dans le festival que j'ai largement plus aimés. Ouais. Mais en fait, je déteste Miike d'habitude.
Bah, Miike, ouais, ça fait
voilà,
un peu peur.
C'est quelqu'un, je trouve, qui, depuis longtemps maintenant, enchaîne, je sais pas, 4 films par an, et puis ça se voit, c'est pas réalisé, c'est torché à la va comme choupou. J'ai jamais aimé ce qu'il fait. Je me rappelle même à l'époque où on commençait à le découvrir, un truc comme Audition, qui était très apprécié de la critique, tout ça. Et donc son film La First Love, qui était en gros un film de gangster, hein, ça m'a étonné parce que pour une fois j'ai trouvé que ça fonctionnait à peu près. Il essayait de c'était pas fait par-dessus la jambe, il essayait de construire une intrigue, des personnages. Je me suis beaucoup marré, de 3-4 fois j'ai eu des rires assez francs, notamment sur un personnage de mafieux qui n'arrête pas de buter des gens sans le faire exprès. Et qu'à un moment, il envoie sa bagnole et il vient de buter quelqu'un. Il dit « Putain, merde, c'est la troisième personne que je bute aujourd'hui. » Voilà, donc c'était une, c'est pas une gigantesque surprise. Mais voilà. Et si je peux, un
exercice
rapide, c'est Les Misérables. En fait, ça m'a étonné parce que personne n'en parlait. Je ne savais pas, je n'étais pas du tout au courant. Puis au milieu du film, on voit débouler les Lopez, qui sont des gitans qui ont fait le buzz dans la réalité. Hein, des gitans qui ont fait le buzz il y a 2-3 ans, je crois, sur Internet.
Ils faisaient des vidéos.
Voilà, ils faisaient des vidéos. Ils disaient la calotte de tes morts. Ils s'insultaient entre vidéos. Et moi, c'est un des plus gros fous rires de mes dernières années, quoi, ces vidéos-là, quand j'étais. Mais je me rappelle écroulé de rire dans la rue en train de mater ça sur mon portable. Il y a quelqu'un qui s'est arrêté parce que je pleurais, quoi. Et bref, et donc, je les ai vus débouler du film, je m'y attendais pas du tout, et effectivement c'est des personnages très cinématographiques, quoi. Et je me suis bien marré aussi là-dessus.
Ouais. Ok, alors moi ma meilleure surprise, alors j'en avais parlé dans l'émission d'intro en disant que ça pouvait m'intéresser, mais c'était un peu à la blague en disant que c'était mon film de scandale lyonnais, Alice et le maire, avec Fabrice Lucchini, le film de Nicolas Parisard, et j'ai trouvé ça hyper bien, très très bien écrit. C'est du velours pour les deux acteurs principaux, donc Fabrice Lucchini et Anaïs de Moustier. C'est un film qui va dans les coulisses de la vie politique, et en France, ça a souvent donné des trucs ratés ou caricaturaux, et là, c'est assez brillant. Voilà, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé, et je sais que Daniel Andreev, qui était avec moi à la projection, était également d'accord.
Et moi aussi.
Et aussi Hugo, qui l'a rattrapé un peu plus tard. À l'inverse de la plus grosse surprise, c'est quoi la plus grosse déception, Anaïs ?
Ma plus grosse déception, c'est le film de Terrence Malick.
Voilà, t'attendais beaucoup ?
Disons que en fait, ces derniers films ont été assez, assez critiqués, et notamment Song to Song. Et pourtant, moi, c'est un film que j'avais beaucoup aimé, que j'avais trouvé assez, assez radical dans sa manière de réinventer l'histoire d'amour avec cette narration en voix off, complètement onirique. Et donc, j'attendais un peu ce nouveau film parce que on disait que c'était un retour à un cinéma un peu plus classique de Terrence Malick, qu'il allait arrêter en fait avec le mysticisme qu'il a exploré depuis tout ce temps dans sa carrière, et que ça allait être un récit un peu plus terre à terre. Et en fait, en termes de réalisation, j'ai retrouvé ce que Malick fait dans tous ses films. Et donc, j'espérais qu'il allait encore expérimenter et créer quelque chose de nouveau, et justement abandonner ce qu'il avait fait dans Song to Song et dans Tree of Life, et essayer quelque chose d'autre. Et en fait, je me suis dit, bah... J'ai déjà vu ça, quoi. J'ai déjà vu ça. Je trouve en plus que ça colle pas forcément au propos du film, ce style-là de réalisation. Du coup, ben, ceux qui sont fans de Malick et de sa réalisation vont aimer, parce que c'est encore la même chose. Mais moi, j'espérais que je verrais quelque chose d'un peu différent. Et donc, j'ai été assez déçue sur ce point-là.
Perrine ?
Ma plus grande déception, c'est sûrement le film de Gael García Bernal, Chico Arotas, qui était en séance spéciale. J'avais très envie de le voir, déjà le sujet, le Mexique, sa mafia, enfin tout ce qui va pas bien. Moi j'aime bien, c'est déjà c'est un peu.
De mafia.
Je suis fan de mafia, je suis fan de l'Amérique du Sud, c'était parfait pour moi.
La mafia, c'est ta grande passion.
C'est ma grande passion, c'est mon dada. Et donc non, mais voilà, j'étais vraiment au taquet. Et c'est vrai que depuis le début de ce festival, d'ailleurs l'ensemble du festival, on est quand même sur une tonalité. Il n'y a pas grand-chose qui va bien, hein, quand même. Mais à côté du film de Gael García Bernal, les autres, c'est des comédies, en fait. Hein, vraiment, parce que là, c'est sordide. Mais sordide. Ouais. Mais, je me suis posé la question s'il ne détestait pas ses personnages à un moment donné. Et il y a une séquence... Alors, devant moi, pour la petite anecdote, devant moi, j'avais Walter Salles et Fatih Akin, juste devant moi. Et à un moment donné, il y a une scène de viol qui démarre. Il s'est déjà passé des horreurs, mais des horreurs depuis le début. Et là, il y a une scène de viol qui démarre et ça prend du temps. Je comprends pas pourquoi il fait ça. Et là, d'un seul coup, ça dure. Et je me suis mise à crier, vraiment, dans la salle. J'ai fait genre, oh mais non ! Comme ça, et j'en avais vraiment marre. Et là, j'ai les deux devant moi qui sont retournés comme ça, genre, bonjour, pardon, excusez-moi. J'ai crié un petit peu fort. Mais non, c'est insupportable. Et vraiment, ça finit dans une noirceur totale. Pas d'espoir, aucun personnage ne peut s'en sortir. C'est vraiment terrible. J'ai pas du tout compris à quel point Gaël, il allait mal, en fait. Est-ce qu'on peut s'occuper de Gaël García Bernal, parce que là, vraiment, il va pas fort, quoi. Non, c'est vraiment, c'était très dur. Très, très dur.
Arnaud, ta plus grosse déception ?
Par définition, une déception étant quelque chose qu'on attend et, ouais. Et donc qui nous a déçus. Moi, je vais dire le Tarantino, même s'il y a des choses formidables dedans, c'est quand même un film que je, enfin c'était le film que j'attendais le plus à Cannes. Et au regard de ça, on en a parlé l'autre jour dans le ciné.
Je vous renvoie à l'émission.
On peut dire que c'est la plus grosse déception pour moi.
Ouais, moi aussi, pour les mêmes raisons, aussi parce que c'était le film sur lequel j'avais le plus d'attentes, et que même si y a plein de choses que j'aime dedans, je le considère comme le moins bon film de Tarantino. C'est une vraie déception, quoi. J'ai revu le film et ça a réglé un certain nombre des problèmes que j'avais à la première vision. Il y a effectivement pas mal de choses intéressantes, mais voilà, c'est la définition de la déception. C'est le Tarantino pour moi.
Mais on verra effectivement, parce qu'on, comme on l'a on l'a vu tous les deux deux fois, donc on verra, parce qu'on va aller le revoir, c'est sûr, une troisième fois, puisqu'apparemment, avant même la fin du festival,
il a annoncé qu'il allait peut-être gonfler le montage, faire un film plus long.
L'étendre.
D'accord, j'ai cru que vous alliez dire qu'il va encore une autre projection. Non. J'étais en train de m'enjailler d'un seul coup, et genre, ah non,
mais on s'est
m'enjailler.
Voilà, après, on ne sait pas exactement. Enfin, je pense que déjà, le palmarès, s'il y figure, peut avoir un impact, donc c'est à suivre, ce sujet. Hugo ?
Déjà, je vous rejoins sur Tarantino, c'est l'une de mes grosses déceptions, mais j'ai été encore plus déçu par Lux Eterna de Gaspard Noé, qui était présenté comme un essai sur le cinéma, la cinéphilie et l'hystérie des plateaux, un moyen-métrage énergique et brillant, Et c'est rien de tout ça, c'est nul en fait, il y a rien, il y a deux, trois stroboscopes, il y a des citations de cinéastes et puis c'est tout quoi. On se fait chier, ça gueule pendant une heure. S'il y a 10 minutes assez marrantes avec Béatrice Dalle qui est en roue libre, qui improvise, c'est assez marrant. C'est pas tellement sur l'humour que j'attends de Gaspard Noé, mais c'est plutôt ça qui m'a plu dans le film. Sinon, il y a pas d'invention. Voilà, c'était.
Mais Noé, moi je l'ai pas vu, hein, mais je pense qu'il va falloir qu'il se réinvente à un moment quoi. J'avais plutôt bien aimé Climax, mais ce que tu dis là, même si j'avais pas détesté le film, je l'avais ressenti quand même sur Climax. Je me suis dit, ça serait bien qu'il essaie de.
Ouais, il y avait déjà pas énormément de nouveautés, mais là c'est encore pire quoi. C'est vraiment.
Il est capable en plus, c'est un mec qui a du talent.
Et puis surtout formellement là, on l'a déjà un peu évoqué, mais c'est très faible quoi. Il finit son film par 20 minutes de stroboscope. Comme s'il voulait provoquer une crise d'épilepsie, ouais, ça tombe complètement à plat.
Oui, 20 minutes alors que ça dure 50 minutes.
Ouais, ouais.
Keshish fait mieux que lui sur son propre terrain, en fait, je trouve.
Et là-dessus, on va enchaîner, c'est une catégorie pas si éloignée, c'est la fois où vous avez failli quitter la salle, ou peut-être que vous l'avez vraiment fait. Anaïs, tu prends le micro là.
Comme la transition est parfaite, puisque Hugo vient de mentionner Keshish, effectivement, c'est un peu le film qui fait le buzz depuis qu'il a été projeté à Cannes. C'est le nouveau film de Keshish, Make to My Love Intermezzo, qui prend un peu ce qui avait été critiqué dans le volet précédent avec les plans assez lubriques des fesses de ses actrices, et là qui explose les compteurs quoi. Et en plus qui nous place dans un film vraiment claustro de 3h30, où en fait vraiment les 90% du film sont dans une boîte de nuit, avec la musique de boîte de nuit qu'on connaît et les lumières de boîte de nuit qu'on connaît. Et donc c'est extrêmement épuisant, abrutissant même à regarder.
C'est très long.
C'est très très long. Y a des plans très très longs de fesses en train de twerker, avec de la musique vraiment abrutissante derrière et des jeux de lumière qui font vraiment mal aux yeux quoi. Donc effectivement, ça rejoint presque du Gaspard Noé dans la radicalité du propos.
Sachant que les deux cinéastes sont assez proches, hein. Ils sont devenus amis.
Là, c'est la première fois qu'on sent vraiment une filiation, je trouve, entre les deux. Et donc à la fois, je trouve ça intéressant de dire, je m'excuse pas quoi, je vous fais vraiment vivre une expérience sensorielle assez éreintante, mais moi du coup il y a eu plusieurs moments où je voulais vraiment quitter la salle parce que c'est épuisant physiquement et moralement en fait de regarder ça. Donc si j'avais pu, si j'avais pas par devoir professionnel décidé de rester, je me serais vraiment barrée quoi.
Beaucoup de gens l'ont fait d'ailleurs.
Oui, beaucoup de gens,
à la fois à la projo presse où il y avait pas grand monde et à la projection officielle où j'étais, même à l'orchestre devant l'équipe, vraiment beaucoup de gens sont sortis.
Faut savoir que le film était aussi projeté à 22h et que comme il dure 3h30, ça veut dire que les gens sortent très tard.
Peut-être que des gens voulaient aller se coucher.
Voilà,
ou aller
je pense
en soirée.
Qu'il y avait une partie de gens qui se sont dit bon, j'ai compris quoi. Au bout de 2 heures, j'ai à peu près compris où le film va aller ou ne pas aller. Et je pense qu'il y en a aussi qui se sont dit en fait, je suis en train de m'endormir devant, donc il vaut peut-être mieux que je rentre quoi.
Arnaud.
Moi, il y en a deux à égalité, parce que je n'ai pas réussi à départager les deux, mais c'est Zombie Child de Bertrand Bonello.
À la quinzaine.
À la quinzaine, où on nous vend ce type comme un grand formaliste. Alors, j'ai trouvé ça mais aberrant. Quoi. J'y suis allé aussi par intérêt pour le sujet, parce que c'est passé à la fois dans les années 60 à Haïti, avec un esclave et tout le folklore autour du vaudou. De nos jours, au lycée de la Légion d'honneur à Paris. Voilà, et donc, il va y avoir un lien entre ça, entre l'héroïne et cet esclave qui est un ancêtre, hein. Enfin les deux héroïnes, parce que bref. C'est surtout, j'ai trouvé ça mais chiant comme la mort. Alors on nous parle de grand formaliste, c'est filmé, mais on dirait un téléfilm quoi. Il y a le son, la manière de jouer des acteurs qui est le pire de ce qu'on peut voir dans le cinéma français, avec ce ton monocorde où on récite des dialogues là, comme si on récitait des listes de courses là, mais c'est insupportable quoi. Et puis l'autre truc, alors par contre, si je lui reconnais des qualités formelles qui étaient déjà celles du précédent film du réalisateur, c'est The Lighthouse. On peut pas dire que c'est moche là par contre, parce que c'est très travaillé visuellement, mais ça ne raconte strictement rien. Vous en avez parlé aussi peut-être, je crois, déjà
on l'a juste évoqué vite fait. C'est Willem Dafoe
et Robert Pattinson, c'est deux gardes dans un phare. C'est une sorte de fable fantastique, c'est une relecture très lourde lourdingue du mythe de Prométhée, quoi, avec des images bien dans ta face si jamais t'as pas compris la subtilité du bidule, et avec deux gardiens de phare, un phare en 1924, enfin dans ces eaux-là, je crois, et qui pendant deux heures s'ennuie, voit des sirènes, rêve de s'enculer tous les deux, après finalement oui, et puis après non, et puis son copain, et puis son plus copain. Voilà, c'était abominablement chiant. Et voilà, c'est les deux trucs qui m'ont
Hugo
envie de sortir.
Il y a eu pas mal de films chiants, mais il y a un film chiant qui dure 2h25 et qui a été projeté hier, donc en fin de festival. Donc au bout d'un moment, ça commence à fatiguer un peu. C'est Le Traître de Marco Bellocchio. Donc c'est une espèce de restitution d'une affaire mafieuse. Moi je suis pas spécialement fan de mafia, donc du coup ça m'a peu touché. Et
t'as
puis
pas des tatouages de la Camorra comme Perrine
partout sur le corps.
Dès le départ, il y a énormément de personnages qui se sont présentés. Et, on sait pas trop qui est qui. Enfin c'est vrai, j'ai décroché les 5 premières minutes et donc du coup ça a été un supplice pendant tout le film. Donc j'aurais pu partir, mais bon, j'ai voulu respecter le
solide.
Voilà.
Perrine.
Moi c'est pas parce que le film me plaisait. Enfin, pas. Je pense que c'est la fatigue en fait, c'est-à-dire c'est le film de Desplechin, Roubaix, une lumière. En plus moi j'étais très contente, Roubaix c'est la maison, tout ça c'est chez Mia, donc j'étais vraiment bien, j'étais contente, puis en fait on voit pas Roubaix, ou très peu, et, mais c'est surtout qu'il fait nuit, et mais surtout je pense que la fatigue à jouer, c'était pour le coup c'était pas si tard, c'était vers 19h, mais voilà, fatigue morale, et j'ai eu la sensation de me faire engueuler pendant 2 heures. Parce que c'est beaucoup d'interrogatoires, etc. Et donc, ils crient fort, les gens, pour faire parler.
Tu vas cracher le morceau, Périne.
C'est un peu ça. Et donc, au bout d'un moment, je me dis, mais arrêtez de me crier dessus. Je suis pas en état. Et donc, je suis pas sortie, je suis restée jusqu'au bout. Mais il y avait une part de moi qui plus allait, plus s'enfonçait sur son siège, genre arrêtez de me faire du mal. Donc, je serais très cliente de revoir Le Desplechin pour l'apprécier autrement. Mais là, c'était juste la séance douleur pour moi. Ça a été la séance douleur.
Moi, le film qui m'a fait ça, c'est La Belle Époque de Nicolas Bedos, qui a été très bien reçu par la salle. Les gens étaient hyper enthousiastes, beaucoup de rires, beaucoup d'applaudissements à la fin. Et moi, j'avais l'impression d'être pris en otage, d'être enfermé avec la personnalité de pervers narcissique de Nicolas Bedos. Ça a été un calvaire. Et je n'en pouvais plus. C'est un film qui est très, très, très vulgaire. On a l'impression... pour moi, c'est comme un cauchemar où tous les personnages auraient la tête de Nicolas Bedos. Et sa vulgarité... Enfin, il veut tout le temps... Tout le monde veut sucer tout le monde en permanence. Enfin, il y a un truc que j'ai trouvé très, très, très pénible, alors que j'avais plutôt aimé son film précédent. Là, j'ai vraiment souffert.
Moi, je suis assez d'accord avec toi, c'est assez marrant tout ce que tu dis là. On a l'impression d'être enfermé dans un ascenseur avec lui, ce qui doit être un calvaire. Mais il faut quand même le reconnaître, moi je trouve que pour une comédie française.
Il y a du travail formel, ça,
voilà,
c'est,
formel,
on peut pas le nier.
Même à l'écriture, ouais. Tu vois, c'est quand même travaillé. C'est pas souvent dans ce genre de...
Clairement, je peux pas dire que c'est nul, mais c'est, voilà, j'ai vraiment psychologiquement subi le film. Et on va enchaîner avec les dernières catégories. On va essayer d'aller un petit peu vite parce qu'on est déjà à 40 minutes d'émission. Et on va
mais
commencer...
On faisait pas 3 heures, on faisait pas un kéchiche d'émission.
Attention, on va ensuite... On va commencer à twerker, mais en podcast, c'est moins impressionnant.
Je refuse.
Oh, comme tu twerkais bien, Arnaud. Oh, regardez ça.
Mais ça existait, le twerk, en 94.
Enfin, non, alors, je pense qu'on est peut-être sur un anachronisme, mais c'est un autre débat. Et on va commencer, du coup, avec
la soukous, c'est une vieille danse africaine.
C'est le début du
twerk. Pareil, hein, tu sais, c'est une adaptation de la soukous, le
twerk. Ça a démarré à 7.
On le savait pas. Merci.
C'est vrai qu'il y a une blague dans le film à un moment où un des personnages dit que c'est la jet set, ça vient de set, mais le twerk aussi. Et donc on va commencer avec la palme du cœur.
J'ai pas compris.
Non mais c'est une mauvaise blague dans le film, donc voilà. Tout film confondu, le film, voilà, ta palme du cœur, Perrine, vas-y.
Bon, je l'avais déjà annoncé la semaine dernière. Alors, je mettrais Bon Juno là comme ça spontanément aussi, mais j'avais déjà annoncé la semaine dernière ma palme du cœur, c'est toutes sélections confondues, on est d'accord.
Toutes sélections confondues.
Eh bien, c'est le film de Patricio Guzmán, La Cordillère des Songes, ouais.
Dont tu nous avais parlé.
Voilà.
Un documentaire sur le Chili.
Documentaire sur le Chili, encore, toujours, parfait, extraordinaire. Merci Patricio. Et voilà, chef-d'œuvre, point.
Hugo, ta palme du cœur.
Donc c'est toute compétition confondue, oui. Donc ça inclut Cannes classique par exemple.
Bien
moi
sûr.
C'est Shining de Stanley Kubrick, hein, c'est quand même ce que j'ai vu de mieux.
C'est quoi ?
Ah, c'est bien ça.
Un petit film sympa, un film d'horreur assez réussi, de belles images. Non mais plus sérieusement, c'est ce que j'ai vu de mieux, c'est Parasite. En plus c'est en compétition pour la Palme, c'est vraiment c'est beau, c'est drôle, c'est mis en scène magnifiquement. Enfin c'est exceptionnel.
Arnaud, ta palme du cœur.
Je sais pas, je comprenais pas trop en fait le
tout. C'est le film que t'as le plus aimé, quoi.
Ah, le film.
Dans toutes les sélections.
D'accord. Bah, ouais, bah, je vais pas faire original. En fait, je pensais que c'était un truc un peu. Comment dire, moins noble que Palme du Cœur, tu vois, je sais pas. Ouais,
non, ouais. C'est, en fait, c'est une référence au fait que souvent les critiques utilisent cette expression et du coup ça se retrouve sur les affiches. En gros, tous les films sont des palmes du cœur parce qu'ils n'ont pas eu la palme d'or, en gros. Mais voilà, l'idée, c'est le film que tu as le plus aimé.
Bah ouais, bah alors dans ce cas-là, ouais, je sais pas, c'est compliqué. Ça serait le Malik et puis le Bong Joon-ho, quoi. Une vie cachée.
Pour le coup, tous les deux sont en compétition, donc peuvent avoir la palme.
Ouais, ils sont en compétition. Et puis sinon, parce que c'est quand même. Moi, j'ai trouvé ces deux films magnifiques, quoi. C'est clairement le haut du panier de ce que j'ai vu ici. Mais après, le polar coréen que j'ai vu hier, là, The Gangster, The Cop, The Devil de Lee Won-tae.
Dont t'as déjà parlé en début d'émission.
Voilà, c'est-à-dire là, c'est la pure décharge. Charge de fun, quoi, comme on n'en a pas souvent dans un festival. Et rien que pour ça, voilà, un petit coup de cœur aussi pour lui. Quoi.
Anaïs ?
Bah, moi, ma palme du cœur, qui ne pourra évidemment pas avoir la palme, c'est The Lighthouse, encore une fois, de Robert Eggers, que j'ai trouvé pas du tout chiant. Et vraiment sublime. Et avec un film dans lequel Robert Pattinson traite Willem Dafoe de prépuce caillé. Pour moi, c'est une palme du cœur évidente. Et après, encore une fois, le film qui m'a le plus ému, c'était Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, que j'ai trouvé vraiment sublime et révolutionnaire à plein de niveaux. Et donc, pour ça, c'est clairement ma palme.
Ouais, moi, ça serait aussi ce film qui m'a le plus marqué et qui, que, en même temps, je garde en palme du cœur dans le sens où je doute pas mal qu'il puisse avoir vraiment la palme d'or. Donc, Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma, que je trouve extrêmement bien tenu et qui, en plus, vieillit très bien dans mon esprit. C'est-à-dire que c'est un film que j'ai aimé sur le coup et qui a continué à me travailler. Et on arrive à la dernière catégorie. Là, c'est la catégorie où on se mouille un peu. C'est le pronostic. On ne sait pas encore du tout ce qui va se passer samedi. Qui va avoir la palme d'or en fonction de ce qu'on a vu, de ce qu'on connaît du jury. À votre avis, Arnaud, je commence avec toi.
Bong Joon-ho, Parasite. Parce que je pense que les autres qui peuvent être des favoris dont on a entendu parler au cours du festival, Almodovar... Malik, tout ça, c'est quand même des vieux briscards du festival, dont un qui a déjà eu la palme. Bon, après, il peut y avoir des doubles palmes aussi. Mais Bong Joon-ho, je pense que ça serait une vraie valeur ajoutée, quoi, pour le festival. Que je pense que le film a été beaucoup apprécié. Et le truc, c'est que c'est le premier film, je pense, de lui qui est à Cannes et qui peut prétendre à ça, parce que c'était beaucoup plus compliqué avec Okja, qui non seulement...
Évidemment, avec Netflix.
Avec Netflix, et puis en plus, qui était un film beaucoup plus hybride et peut-être déroutant pour certains spectateurs. Mais c'est un film plein, c'est un vrai film de Bong Joon-ho, du début jusqu'à la fin, et c'est une identité très forte. Je pense que le jury peut jouer cette carte-là.
Et d'ailleurs, s'il a la Palme d'Or, on rappelle qu'il sort le 5 juin en France, donc pour les distributeurs The Joker, ça serait un hold-up parce que là, ça serait parfait pour lancer le film.
Tout à fait.
Perrine ?
Moi aussi, c'est le bon Juno. Je suis restée très longtemps sur Almodovar, me disant que... Bon, déjà, ça serait complètement mérité parce que je trouve le film assez extraordinaire, mais en plus, d'une certaine façon, pour... la carrière du réalisateur qui n'a jamais eu la palme, contrairement à ce que j'avais annoncé dans la toute première émission, qui n'a jamais eu la palme, serait une manière aussi de récompenser son travail et sa carrière, mais ça serait pas démérité avec le film. Mais là, j'ai vu le Bong Joon-ho entre temps, et je pense que même par rapport aux membres du jury, en réalité, autant on a quelqu'un d'assez très attaché à la mise en scène, même si je suis pas d'accord avec lui, mais très attaché à la mise en scène qui est Iñárritu, qui peut se faire un gros kiff sur Bong Joon-ho, et à la fois des réalisateurs comme comme Pavel Polikowski, qui sera plus dans l'émotion ou plus dans le dans un aspect social, etc., qui pourrait être touché par le sujet aussi, et aussi sur la mise en scène d'ailleurs. Yorgos Lanthimos, qui aime bien jouer avec le genre, donc à mon avis, en fait, vis-à-vis de la personnalité des membres du jury, pardon, le film peut toucher tout le monde à divers niveaux, et puis ça serait aussi pour récompenser la très bonne carrière de Bong Joon-ho jusque-là.
Anaïs,
ouais, pour moi effectivement j'hésitais entre Bong Joon-ho et Almodovar, mais c'est peut-être une prophétie autoréalisatrice, j'espère, mais moi je pense que ça peut être Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Déjà il y a qu'une seule femme qui a gagné la Palme d'Or, c'était Jane Campion depuis le début du festival, et
déjà avec un film en costume,
ouais, et avec la leçon de piano auquel le film de Céline Sciamma fait ouvertement référence. Et Cannes est sous pression depuis plusieurs années par rapport aux questions de parité et de représentation. Je pense aussi que dans le jury, il y a beaucoup de femmes à la forte personnalité et qui peuvent être sensibles à ce cinéma-là. Et il y a aussi des réalisateurs qui ont mis en avant de très très beaux portraits de femmes, comme Yorgos Lanthimos avec The Favourite ou Pavel Pavlikovski avec ses films, quoi. Donc ça me paraîtrait pas complètement absurde. Voilà. Et donc à la fois c'est ce que j'espère, je pense que ça aurait de la gueule, et je pense que c'est tout à fait possible, et ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu une vraie possibilité pour une femme de remporter la palme, parce qu'il y a tellement peu de femmes en compétition tous les ans, et que parfois les films sont pas toujours, font pas l'unanimité ou sont pas très réussis. Là, celui-là, j'ai l'impression qu'il a beaucoup plu à beaucoup de monde, donc ça me paraît probable.
Hugo.
Pour moi, il y a une telle unanimité sur Parasite, tout le monde est d'accord pour dire que c'est génial, que c'est au-dessus de tout le reste, que je pense qu'il n'aura pas la Palme d'Or. Je pense que ça fera pas justement l'unanimité dans le jury, parce que ça a souvent été le cas à Cannes, où il y avait un film qui se détachait, et puis finalement, limite, il n'était pas récompensé. Moi, je pensais plus à Malik, par exemple, qui pourrait mettre d'accord des gens comme Pavlikovski, Alice Rohrwacher, Elle Fanning et Iñárritu. Enfin, c'est ce que j'ai vu de mieux de Malik ces dernières années. C'est hyper.
Il y a des points communs entre Iñárritu et
ouais, en plus, ça, ouais.
Je parle professionnellement. Ils ont employé le même chef-op.
Ibetsky, ouais. Ouais. Donc,
un bon candidat, Malik. Et moi, je reste sur Bong Joon-ho comme le grand favori. J'ai l'impression que c'est pas tous les ans, en fait, qu'il y a un film que je trouve à ce point au-dessus du lot, en fait. Enfin, pour moi, je sortais de la séance en me disant c'est une évidence, en fait, que là, il a explosé tout le monde. Et il me semble que les années où ça se passe à ce point-là, c'est le film qui a la palme. Mais
j'ai crié palme en sortant, quand même. Vraiment, sorti de la salle, palme.
Tu voilà. Cries beaucoup, dis donc.
Ouais, mais c'est le Cannes de l'expression.
T'es complètement hystérique, en fait, quand tu sors des projections.
Mais totalement. Mais c'est la fatigue aussi.
Mais il y a un tel niveau quand même cette année que je trouve que c'est difficile. Il y a des années où il y a vraiment 2-3 points forts dans la compète, et après il y en a plein, on sait qu'ils n'auront rien. Là, cette année, le niveau était vraiment excellent, et il y en a plein, il y en a peu où je me dirais oh là là, mais n'importe quoi. En fait, ils sont vraiment tous
là,
très très bons.
Et là, Francky Palme d'Or, quoi.
Mais même Francky Palme d'Or, ça ne me dérangerait pas totalement. Enfin, ce serait bizarre, hein, ce serait vraiment très bizarre, mais je veux dire, ce n'est pas un mauvais film, alors qu'il y a des années où on se dit vraiment il y a une grosse différence de niveau entre les films. Et là, cette année, c'était vraiment excellent. À tout point de vue, à part quelques exceptions comme le film des Dardenne, par exemple.
Ouais, si c'est les Dardenne ou Jarmusch qui a la palme.
Ouais, voilà. Là, ce serait vraiment
un scandale. Niveau, voilà.
Là, on casse tout.
Mais c'est vrai qu'on rappelle que le palmarès est rendu par un jury, donc ils sont 8 et ils se mettent d'accord entre eux, donc c'est pas du tout forcément quelque chose qui correspond à la moyenne de ce qui est entendu dans le festival, et c'est pour ça qu'il y a souvent des surprises. Voilà, en tout cas, on s'est mouillé, on verra ce que ça donne. Le palmarès, c'est samedi soir. On le débriefera dimanche avec Perrine. Merci Perrine, merci Anaïs, merci Arnaud, merci Hugo, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci Solène et Quentin pour la réalisation, merci à Camille, à Juliette pour la prod. Retrouvez plutôt tous les épisodes du Festival de Cannes sur binge.audio, Apple Podcast et toutes vos applis de podcast. Il y aura donc un débrief du palmarès et aussi une émission spéciale sur le marché du film. À très vite, à bientôt, vive le cinéma, salut, ciao.
Je préfère partir plutôt que d'entendre ça. Plutôt que d'être sourd.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.